Bonjour, c'est Une vie, une œuvre. L'été d'Une vie, une œuvre sonne comme un anniversaire. 1969-2019. Que se passait-il il y a 50 ans? Arpentons ensemble le temps de notre grille d'été, cette année-là. Cela tombe drôlement bien, Une vie, une œuvre regorge de personnages emblématiques. Après Monique Wittig et ses guerrières de la semaine dernière, voici Éric Rohmer. Grand et sec, vêtu de velours, le visage ascétique, Éric Rohmer occupe une place singulière parmi les cinéastes français. Son premier film, Le Signe du Lion, attire 5000 spectateurs, La Collectionneuse 80 000, et en 1969, Ma Nuit chez Maude attire quant à lui 252 000 spectateurs. Il reçoit le prix Méliès la même année et parvient en finale des Oscars à Hollywood en 1970. Dans une interview du Figaro du 25 mai 1970, il disait « Être moderne pour un cinéaste, ce n'est ni refuser de raconter une histoire, ni imiter le peintre ou le musicien qui veulent briser leur chaîne. Il s'agit au contraire d'emprunter les voies traditionnelles, d'améliorer la technique du récit, l'expression des sentiments, la manière de donner l'illusion de la réalité. Et il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. » Il continua avec son cycle filmique saisonnier, sorti dans les années 90, Conte des quatre saisons. Le cycle épouse les aléas de la pluie et du beau temps, avec l'exploration du hasard amoureux, qui comme un jeu de cache-cache, sépare puis réunit les êtres. Dans Conte d'hiver, l'héroïne finit par renoncer à deux hommes, lui offrant une stabilité pour revivre une histoire inachevée avec son premier amour. Conte d'été prend la forme d'un triangle amoureux estival, où les personnages se laissent tromper par les mirages du désir. Dans Conte de printemps et Conte d'automne, il est aussi question de chassés croisés, d'histoires d'amour qui s'éteignent pour mieux renaître sous d'autres formes. Le premier est l'histoire d'une jeune prof de philo, aspirant à une renaissance amoureuse, sans oser s'adonner complètement à cette dangereuse envie. Avec Conte d'automne, dernier opus de cette saga brillante, Rohmer nous conte l'histoire de Magali, une viticultrice que deux amis cherchent absolument à caser avec un homme. Le réalisateur livre ici le film le plus mélancolique de son cycle, sur la jeunesse qui passe, sans rien perdre de son espièglerie et de son goût de la jouxte-oratoire. Tout de suite, Hélène Frappa et Angélique Thibault vous offrent Une vie, une œuvre consacrée à Éric Rohmer.
Herbes et bois et prés verdissent. Et les oiseaux en leur latin chantent doucement au matin.
Il n'est pas né en 1923, le 4 avril 1923, mais en mars 1920. Il n'est pas fils de Louis Rohmer, mais de Désiré Scherrer, qui n'était pas professeur, mais fonctionnaire à la préfecture de Tulle. Donc il n'est pas né à Nancy, mais à Tulle. Il n'a pas fait ses études au lycée de Nancy, mais donc au lycée de Tulle. Il n'est pas professeur d'histoire et de géographie, mais professeur de lettres classiques.
Pas sûr. Parfois, il est plus habile de dire la vérité que de mentir, car alors on ne vous croit pas. Tu ne me crois pas?
Non.
Voilà, tu as raison.
Dans cette existence, complètement falsifiée, jouée, métamorphosée, c'est le lien avec le frère, avec René Scherrer, qui est un lien très fort.
Antoine de Beck, historien.
Donc, d'abord, ils sont très proches en âge, ils ont grandi ensemble dans la même maison, ils partageaient la même chambre, cette maison qui est... encore dans la famille Scherrer à Tulle, au-dessus de la cathédrale, au-dessus des quais, tout en étagement comme ça, assez petite et assez secrète, assez refermée, assez elle-même.
capsule, finalement, il y a, comme il dit, c'est, il y a des jardins et c'est assez escarpé, finalement. C'est une espèce de vallée comme ça. Et la ville est tout en longueur. Et tout autour, il y a des parcs, des espaces verts.
Françoise Etchegaray, productrice.
Il y avait beaucoup de manufactures d'armes qui ont disparu avec beaucoup d'ouvriers. Lui, il n'avait pas le droit de sortir avec son frère parce que sa mère avait peur et puis on ne se mélangeait pas. C'était les fils d'ouvriers qui jouaient dans la rue. Et il regardait les enfants qui jouaient par la fenêtre, à genoux, sur une espèce de petite surélévation qui était devant la fenêtre, parce qu'ils étaient tout petits. Sinon, ils ne voyaient pas dehors.
Nous implorons ta bonté. Permet qu'avec
les deux frères ont partagé beaucoup de choses dans leur adolescence, leur enfance. Un goût très marqué pour la littérature. Il y a encore la bibliothèque avec les vitres qui protègent beaucoup de livres des grands classiques du 19e siècle. Hein. Mais aussi Jules Verne, mais aussi la comtesse de Ségur dans la maison des origines.
Le rayon vert, vous l'avez vu d'ailleurs?
Je l'ai vu même trois fois. La première fois, je pouvais avoir peut-être 8 ou 9 ans, et c'était à La Baule. Connaissez-vous La Baule?
Non.
Il y a une très très belle plage, très longue, de 7 km, je crois. Et je me trouvais avec mon père, et justement, il m'avait parlé du livre de Jules Verne, n'est-ce pas? Et c'était pas une journée très claire.
Ils ont partagé beaucoup, ces deux frères, un goût très marqué pour le théâtre, la représentation, faire des spectacles, tous les deux, ou avec les cousines qui sont très proches. Dans l'univers familial, et des souvenirs, des traces dans les archives de la farce de Maître Paquelin, comme ça qui sont joués dans le grenier. Donc, bon, voilà, c'est une enfance absolument normale en même temps.
Comme une lame de sabre qui se détachait horizontalement, n'est-ce pas? Et c'est extrêmement joli, mais tout à fait court.
Viens, c'est par là. Petite porte verte.
Et la maison elle-même, c'est une maison sur plusieurs étages, très verticale comme ça, avec plusieurs niveaux. C'est plein de recoins et d'espaces différents. Et ce qui est très étonnant, c'est que cet escalier en bas, ce sont des petits chevaliers sur un fond bleu. C'est Perceval. Et je me suis dit qu'enfant, il était quand même dans cette espèce de décor tout à fait étonnant, avec des niveaux différents. C'est-à-dire que, par exemple, il y a deux marches, puis trois, et puis qu'on a un escalier sur le côté, enfin... C'est sans arrêt en demi-étage déjà, pas en étage complet. Et chaque demi-étage donne sur des espaces qui sont à nouveau avec des marches et dans des espaces séparés comme ça.
Autre chose qui a sans doute aussi rapproché, c'est évidemment des études qui sont parallèles, en fait, des études de lettres qui mènent à l'Hippocagne, à la Cagne, au lycée Henri IV et à l'école normale supérieure, puis à l'agrégation de lettres ou de philosophie. Le seul chose qui différencie les deux frères, c'est qu'il y en a un qui réussit tout, c'est le petit. René Scherrer, c'est vraiment le grand espoir de la famille. Alors que le grand frère, donc Maurice, donc le futur Éric Rohmer, c'est celui qui rate. Il rate Normale Sup, il rate l'agrégation. Il rate aussi au sens où il est, même si ça plaît à sa mère, hein, il est quand même professeur dans un petit lycée de province.
Vous ne voyez pas que le maths est complètement idiot?
Tout en étant...
On n'est jamais content, faut toujours remplacer. Maintenant, pour diviser, il faut multiplier.
Pas du tout un marginal.
On nous apprend un truc, puis l'année d'après, ça
change. C'est celui qui est dans une forme un petit peu de...
Personne n'y comprend rien, et moi, plus fort.
Je dirais de labeur, de difficulté à être compris, à être brillant. C'est quelqu'un qui, par exemple... sur un tournage, longtemps a été un peu ridicule. D'une part parce qu'il est très timide, d'autre part parce qu'il a vraiment une difficulté très forte à se faire comprendre et à pouvoir travailler avec des professionnels. Le premier tournage de Rohmer, le premier tournage important d'un long métrage, ça intervient très tôt, hein, dans son existence, on le sait pas trop, mais c'est dès l'été 1952, il a 32 ans, il tourne un long métrage, Les petites filles modèles. Et une des choses qu'on voit très bien dans les témoignages, même dans les échos du tournage qu'il peut y avoir dans la presse de l'époque, c'est la difficulté qu'a Romère à être compris.
Il m'a proposé ma nuit chez Maud, je jouais au théâtre, la puce à l'oreille.
Françoise Fabian.
Et il est venu au théâtre me déposer son scénario sur ma table de maquillage. Il m'a dit, voilà, je veux faire ce film avec vous et avec Jean-Louis Trintignant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais comme il bégayait un petit peu, il me dit, mais de toute façon, si vous ne voulez pas le faire, je ne le ferai pas. Bon, et puis il est parti. Très timide, rouge, comme un petit garçon, qui n'était pas d'ailleurs. Mais il avait cette attitude quelquefois quand il connaissait les gens pour la première fois. Et je suis allée, je vous raconte toute l'histoire. Je suis Truffaut, qui venait souvent nous voir, dans la puce à l'oreille, parce qu'il était très ami avec Jean-Claude Brialy, et Micheline Prel et moi, nous le faisions beaucoup rire. Il nous appelait les petites Marguerites. Et donc, avec Truffaut vient me chercher pour aller passer un Noël chez Jean-Claude Brialy. Mais sur la route, il me fait, vous connaissez un cinéaste qui s'appelle Éric Romère? Je dis non, je n'ai rien vu du tout, je ne sais pas du tout qui c'est. Il m'a dit, il a écrit une chose, il veut absolument que vous le fassiez. Et il faut le faire, Françoise, parce que c'est absolument formidable. Je lis ça, je trouve ça vraiment formidable.
Paris, le carrefour Villiers. À l'est, le boulevard des Batignolles. Au nord, la rue de Lévis et son marché. Le café, le dôme de Villiers. À sa gauche, l'avenue de Villiers. Le métro Villiers. À l'ouest, le boulevard de Courcelles. Il conduit au parc Monceau, tout près duquel un chantier de démolition marque actuellement la place de l'ancien Cité Club, un foyer d'étudiants. C'est là que j'allais dîner tous les soirs quand je préparais mon droit. À la même heure, Sylvie, qui travaillait dans une galerie de peinture de la rue de Monceau, se rendait chez elle en traversant le parc.
Il faut un peu se remettre dans l'ambiance des années 40-50. Il y a eu en fait deux générations. La génération des gens qui sont nés dans les années 1920, comme Romère par exemple, et ceux qui sont nés dans les années 1930.
Jean Douchet, critique.
Ceux qui étaient Moncas, Truffaut, Chabrol, Godard, etc. Alors, il y a eu justement ceux des années 20, Romère, Astruc, Pierre Casse, ces gens-là, derrière Bazin, avec une culture de cinéma, bien sûr, mais en même temps une grande culture littéraire. Et la littérature était pour eux la chose principale. Romère a commencé à écrire un roman, il a été publié, Astruc pareil, etc. Ils ont tous commencé par des romans, et le cinéma était un peu une sorte de péché mignon, plus ou moins secret, en tout cas pour Romère très secret, puisqu'il a jamais, il voulait absolument pas que sa famille soit averti de son métier, et c'est pour ça qu'il a changé de nom, puisque son vrai nom c'est Scherrer. Et donc, quand arrive 45, la libération, nous qui avions entre 10 et 15 ans, à ce moment-là, on avait uniquement comme culture cinématographique le cinéma français de l'époque de l'occupation, quelques films allemands, trois, quatre films italiens, et puis c'est tout, quoi. Donc, quand arrive la libération, bon, on a une découverte très forte du cinéma américain, mais en même temps, la génération précédente, elle aussi est complètement submergée par le cinéma américain, mais ils connaissaient déjà le cinéma américain. Et ça a donné justement d'abord une première chose, la revue du cinéma, dans laquelle a travaillé justement Bazin, Romère, Astruc, etc. Et cette revue s'arrête en 48. Et à ce moment-là, ils fondent un ciné-club qui va s'appeler Objectif 49. Et moi, j'allais à ce ciné-club. Et évidemment, je connaissais de vue tout le monde. Donc, je le vois, Romère, je l'admire, etc. Mais bon, c'est tout. Et il se trouve que ce ciné-club va avoir l'idée de faire un festival qui sera le Festival des films maudits. Et donc, ce festival va se tenir à Biarritz. Et moi, évidemment, j'ai décidé d'y aller. Et il se trouve qu'en montant dans le train de nuit, évidemment, je trouve nez à nez avec Romère. Et on commence à se parler un peu. Et puis la conversation continue. On voit que c'est quasiment passé toute la nuit dans le couloir du train. pour bavarder. Et donc, à ce moment-là, notre amitié commence. Et puis ensuite, moi, je vais partir à l'armée. Et à ce moment-là, je prête ma caméra de 16 mm à Romer, qui va faire des films pendant ce temps-là ou essayer de faire son... les petits films modèles après la marquise de Ségur, la comtesse de Ségur. Et puis au retour, il n'avait plus de la caméra parce qu'il m'a dit qu'elle lui avait été volée plus tard, mais très plus tard. J'ai su qu'en réalité, ça avait été confisqué par la police parce qu'il avait été dénoncé en train de filmer les petites filles qui sortaient des lycées.
Je regarde pour voir si la petite fille que tu as vue hier, Laura, vient jouer comme d'habitude à 5 heures.
Ah.
Je te dis ça parce que cela me rappelle une vieille histoire que je voulais écrire et je ne sais pas comment finir. Il s'agissait d'un monsieur d'un certain âge, 35-40 ans, diplomat, très austère, très sévère, mœurs au-dessus de tout soupçon, et qui regardait les petites filles. Et jour après jour, il y a des idées, évidemment. Un jour, la balle tombe dans son jardin, lui la prend et la rempoche, et quand les petites filles arrivent, c'est semblant de la chercher dans les orties.
Ce qui distingue les histoires extraordinaires d'Edgar Poe de tous les autres contes fantastiques qui les ont précédés, ou même suivis, c'est leur constante référence à la notion d'univers.
Oui. C'est aussi mauvais que toi, ça.
Oui, ça, je pourrais me reconnaître. Je parie que je gagne.
En chacune d'elles, se manifeste une perpétuelle hantise du cercle, c'est-à-dire d'un monde clos, lui-même écho ou image du grand tout, comme la molécule l'est de la galaxie.
Très vite, Romer sera pour eux les futurs jeunes de la nouvelle vague, Godard, Chabrol, le grand frère qui va un petit peu les protéger, leur mettre le pied à l'étrier, hein, qui va les faire écrire dans les cahiers du cinéma. En même temps, il va s'installer dans un rôle qui est plutôt celui du rédacteur en chef, donc protecteur, que de celui qui a eu une influence par le brio de ses écrits. Romer avait cette influence-là, mais c'est très intéressant de voir comment est-ce que, dans la correspondance qu'il peut échanger à l'époque avec Godard ou avec Truffaut, hein, qui sont donc ses cadets de plus de 10 ans parfois, hein, comment les choses s'inversent et comment, par exemple, c'est Truffaut qui fabrique, entre guillemets, le Éric Romer critique de art. Truffaut le lance, le réécrit ses papiers. On a vraiment l'impression que là, la relation s'inverse. Et en 1963, donc il y a une crise au cahier à ce moment-là, puisque les cinéastes de la Nouvelle Vague se plaignent que les cahiers ne les soutiennent pas à un moment un peu délicat de la vague, qui est le reflux, hein, au début des années 60. Et les cahiers, là... sous la direction d'Éric Romer, préfère généralement, c'est vrai, parler du cinéma américain classique, hésite beaucoup à soutenir les films de Truffaut, de Godard, et encore plus les films d'autres cinéastes de la Nouvelle Vague, un petit peu moins connus et presque aujourd'hui disparus. Et donc Truffaut, Daniel Valcroze, Godard vont se mettre d'accord pour changer la direction des cahiers et imposer Jacques Rivette.
Noël Herp, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur Éric Romer et vous coécrivez
en ce moment donc la première biographie d'Éric Rohmer avec Antoine Debecq, qui devrait paraître fin 2013 ou début 2014. Pour écrire cette biographie, vous avez eu accès donc aux archives qu'Éric Rohmer a léguées à l'IMEC. Vous qui connaissiez déjà bien ce cinéaste, qu'est-ce que ces archives vous ont appris de spécifique? Quelle lumière nouvelle ces archives peuvent jeter sur une œuvre que vous connaissez déjà très bien?
Jacques, les boîtes, elles se constituent à peu près toutes selon le même modèle, c'est-à-dire on a les différents états du scénario, il y a généralement pour chaque film une dizaine de cahiers, chaque couleur correspondant à un film. Alors le rouge par exemple pour Pauline à la plage, des espèces de cahiers Clairefontaine, assez basiques, hein, les cahiers d'écoliers. Le premier jet est toujours au crayon, puis ensuite il repasse au stylo par-dessus le crayon, puis ensuite il recopie à la machine, et puis il met des post-it ou des Tippex, pour corriger ou pour biffer ici ou là. Mais profondément, la structure du scénario est déjà en place dès le début. Donc c'était des petits cahiers, mais pas seulement d'ailleurs, qu'il serrait, comme on disait naguère, dans des boîtes de biscuits. Hein, car évidemment, le grand rite de Éric Rohmer, c'était le thé. Et en fait, il passait ses après-midi à recevoir, pour prendre le thé, de charmantes jeunes filles, qui étaient ou bien des actrices potentielles, ou bien des amis tout simplement.
Selon toi, quelle est ta théorie,
hein? Quelle théorie? J'ai pas de théorie, moi.
Moi, j'en ai une. Qu'aurait fait Sherlock Holmes?
C'est du roman. Écoute, la vie et le roman, ça n'a aucun rapport.
Moi, j'aime la vie justement quand ça ressemble au roman.
Messieurs, dames, vous désirez?
Qu'est-ce que tu prends?
Un thé au lait.
Et monsieur?
Et un café pour moi, s'il vous plaît.
Qu'aurait fait Sherlock Holmes?
Je sais pas, des trucs complètement bidons. Garder à la loupe ou relever les empreintes.
Mm-hmm. Non, pas dans ce cas. Il aurait simplement raisonné. Eh bien, moi aussi, j'ai raisonné. Et j'ai une théorie.
Laquelle?
Bien, c'est de trouver, raisonne.
Mais raisonner sur quoi? Il n'y a pas de fait.
Pas de fait? Qu'est-ce qu'il te faut? Il y en a plein. Tiens, d'abord, il y a le fait qu'il n'habite pas ici.
Ouais, ça, je le savais déjà.
Ni lui, ni elle.
Et ce qui est le plus frappant, c'est là où je voulais en venir. Dans cette genèse, c'est la extraordinaire durée de chaque projet. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit, on le savait un peu, mais pas à ce point-là, que chaque film de Rohmer est pensé, prévu, imaginé, souvent 30 ou 40 ans à l'avance. Donc ça, c'est quand même absolument incroyable. C'est-à-dire, moi, j'ai découvert, par exemple, la première idée de Manuel Chaimaud, qui est un synopsis, qui n'est pas un synopsis, en fait, qui se présente comme une nouvelle. C'était à l'époque où il se voulait encore romancier, donc il écrivait, en fait, il a écrit une série de nouvelles qui était un peu le prémisse des Contes Moreau. Et en 1944, il y a ce texte extraordinaire qui s'appelle « Rue Monge », et où c'est l'histoire d'un jeune homme qui se balade dans le Paris de l'Occupation, qui repère une fille à bicyclette. Alors il revient exprès sur le carrefour de la rue Monge et de la rue du Cardinal Lemoine, parce qu'il est sûr qu'à 10h12, elle va repasser, parce que statistiquement, elle doit repasser par là, etc. Donc il y a déjà ce côté obsessionnel, voyeur, espion, qui va être quelque chose de très important dans le cinéma de Rohmer. Le côté espionnage, le côté prédation, tout ça y est. Et je dirais, il y a déjà le cinéma. C'est-à-dire, il y a déjà une posture de... Parce que pour moi, c'est le personnage rohmérien, par excellence, c'est un metteur en scène. C'est quelqu'un qui se met dans une position de prédation, de maîtrise de l'espace, de maîtrise du temps, de tout prévoir, de tout planifier pour arriver à capter une femme, mais aussi bien, et peut-être plus obscurément, la vie, quoi, dans son caractère imprévisible.
J'ai vu Rohmer à peu près pendant 8 mois. On s'est vu à peu près 2 fois ou 1 fois par mois. On allait déjeuner chez Lippe. Et on faisait la fermeture. On déjeunait, on parlait jusqu'à 4h de l'après-midi, il rangeait les tables, il fallait qu'on s'en aille. Et on parlait de tout, On parlait pas de cinéma, hein. On parlait de la vie, on parlait de la religion, on parlait de l'amour, on parlait de la jeunesse, on parlait du désir, de la fidélité, enfin. Et ça a été, je crois, l'année la plus magnifique, une des années les plus magnifiques de ma vie, cette rencontre avec Rohmer. Et il était tellement drôle parce qu'il ne s'est jamais départi de sa timidité. Je me souviens, on déjeunait face à face et il ne me regardait jamais de face. Alors, il me regardait toujours, il me parlait toujours comme ça, de profil. Et puis alors, moi, je me mettais en face de lui. Et alors, quand je me mettais en face de lui, hop, il se dégageait pour ne pas me regarder de face. Jamais il ne me regardait de face. Il me regardait toujours, il me parlait toujours de profil. Et on s'entendait bien, je le faisais rire. Et puis je le taquinais beaucoup. Je le taquinais sur sa pudibonderie.
Pardon, juste une chose. Quand vous dites que vous parliez des choses de la vie, du désir de la fidélité, etc., c'était des discussions où vous pouviez vous livrer et lui aussi pouvait se livrer, ou ça restait sur le plan des idées?
Ah non, non, non. Ah non.
Non, parce que souvent, on sait qu'il y a quand même, il y avait une sorte de mur absolu entre la vie privée, comme on dit, d'Éric Rohmer,
Je n'ai jamais su où il habitait, par exemple. Quand on le raccompagnait avec Nestor Almendros, même Nestor Almendros ne savait pas où il habitait, il nous disait toujours « arrêtez-nous au feu rouge ». Et puis il partait à pied, et à un moment donné on avait envie de le suivre, et puis on n'a pas osé quand même, on s'est dit « non, s'il s'aperçoit qu'on le suit, ça va le fâcher ».
À chaque fois un feu rouge différent et...
Oui, arrêtez-moi au feu rouge, mais on va vous accompagner, non, arrêtez-moi au feu rouge. Puis alors il s'énervait, hein, quand il ne fallait pas le contrarier, il s'énervait tout rouge. Mais non, on bavardait très profondément, non. Mais il a eu des moments d'impudeur incroyables, parce qu'il m'a montré des photos de sa femme. Il m'a montré des photos de sa femme et de ses enfants, alors que personne ne savait où il habitait. Il avait pas de télévision chez lui, il n'avait pas de rien. Il m'a montré des photos de sa femme en me disant... À qui elle vous fait penser? Elle vous fait penser à Maud ou à Françoise? J'étais un peu stupéfaite quand même.
Oh là là.
J'ai dit, non, elle ne me fait pas penser à Maud, elle me fait penser à Françoise. Ah, vous trouvez? Je dis, vous me demandez mon avis, je vous dis qu'elle me fait penser à Françoise, et non pas à Maud. Maud, c'est moi, c'est pas elle. Elle était blonde, une photo couleur, blonde, avec un foulard dans les cheveux, comme ça. Un petit peu sportive, un petit peu marine. Marine, absolument. On la voyait au bord de la mer. Enfin, je l'imaginais au bord de la mer. Elle m'a dit, ah bon, vous trouvez vraiment? Je dis oui, je la vois beaucoup plus comme Françoise. Peut-être parce qu'elle était blonde, tout simplement. Blonde, avec un air très, très liquide, comme ça, très sage. Ça veut rien dire ce que je dis, mais pour moi, ça veut dire quelque chose.
En même temps, ce qui est troublant quand on voit le film, c'est de voir que finalement, celle qui est la blonde, lisse, angélique, catholique, etc., bonne épouse, bonne mère, enfin tout ce qu'on peut projeter sur elle, et celle qui, et on le comprend dans cette scène saisissante à la fin, mais on l'intuitionne un peu avant, et celle qui est la plus retorse, et celle qui, même du point de vue d'une certaine morale, est... a trahi, et a même une certaine jouissance d'avoir trahi.
Bien sûr.
Alors que la brune, qui est la pécheresse libre, etc.
En puissance, en tout cas.
Voilà. Et la femme, finalement, qui a une fidélité absolue, et pas seulement au souvenir, qui est droite, qui est même morale. Oui, on peut dire qu'il y a beaucoup plus d'éthique que la catholique, en réalité. Puisque quand même, la catholique a arraché le mari...
C'est ça l'ambiguïté de Rohmer. C'est ça le vice de Rohmer. Je lui disais, vous êtes vicieux, Rohmer. Vous êtes pervers. Mais ça l'amusait beaucoup. Mais c'est vrai, elle est fidèle à son amant, elle a eu un mari qu'elle adorait, qu'elle admirait en tout cas. Elle sait que cette jeune fille l'a trompée. Et elle en fait son miel de tout ça. Elle fait sa vie de tout ça. Tandis que l'autre est plus retors, elle est plus cachée, elle est plus mystérieuse, enfin elle est plus
chippie.
Elle est plus chippie, oui, voilà, chippie. Elle est plus femelle.
Voilà,
elle est plus femelle. Maud, c'est pas une femelle, c'est un être, c'est un individu. Pour moi, c'est ça. Mais elle est profondément humaine et elle est tellement dans la vie que elle encaisse. La vie, pour elle, c'est un mélange de bonheur, de travail, de souffrance. Et c'est quelqu'un qui est complètement vital, quoi. Vrai. Quand elle s'en va à la fin, comme ça, elle s'en va à la fin toute seule, après avoir dit Bon, bah, écoutez, dites-lui bonjour. Moi, ça n'a pas encore marché. Et c'est voilà, eux s'en vont tous les trois, la famille, c'est joli, tout ça, malgré les tromperies, malgré les mensonges. Eh bien, elle ment pas. Elle ment pas, mais elle est toute seule. Moi, j'aime beaucoup Maud et je me sens très, très proche d'elle. Vraiment. Je me sens proche et très, très familière parce que ma vie, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je l'ai toujours transporté un petit peu. Je crois que les gens me voient aussi comme ça. Je crois que Romère a dépeint quelque chose qui est en moi, totalement. Et qui survit après Romère, qui est d'une certaine façon mon image. Je ne peux pas être autre chose qu'une image de Romère. Parce que je crois qu'il a trouvé la quintessence de ce que je peut représenter en tant que comédienne. La liberté, l'insolence, la solitude, l'humour, elle est libre-penseuse aussi. Ça compte tout ça, ça structure quelqu'un.
Vous pensez que un acteur ou une actrice recherche finalement ce qu'il attend ou ce qu'il espère, c'est à l'issue d'un tournage, quand il voit le film, d'avoir une stylisation de soi, un portrait de soi.
C'est comme... ça, c'est une stylisation, vous venez de dire le mot, c'est ça. Pour moi, Maud, ça a été une stylisation de mon métier de comédienne. L'idée, par exemple, de la couverture blanche, c'est moi. J'avais dit, ça serait bien qu'on ait une couverture blanche qui soit neigeuse. Ça. Et il était allé au BHV, il avait trouvé une couverture en ours blanc. Je sais pas. Et il avait dit, voilà, votre couverture blanche, vous l'avez.
Et pourquoi ? C'était la neige ? C'était...
Oui, parce que c'était hivernal, parce que c'était... Il était content de cette idée.
Et le noir et blanc aussi.
C'était du noir et blanc.
Enfin, je veux dire, ça tranchait oui, sur les
oui,
cheveux.
Oui, oui, oui. Ah, il neige. C'est bête, la neige, ça fait gosse. C'est Vitesse qui fait ça, qui dit ça. C'est bête, la neige, ça fait gosse. Alors, nous avons tourné, évidemment, dans la neige. Et nous sommes partis à Clermont-Ferrand. Et puis voilà, nous sommes revenus à Paris et nous devions donc tourner après en studio. Et avant, il avait monté la scène à Belle-Île. Il m'a dit, je voudrais vous montrer quelque chose. Et on est rentrés tous les deux dans une salle de cinéma, toute vide, lui et moi. On s'est mis au milieu. Et il m'a montré le montage de la fin. Vous savez, quand on se rencontre sur la plage, le dialogue, etc., et que cette femme s'en va pieds nus avec ses sandales comme ça. Il m'a dit, voilà, je voulais vous montrer ça, parce que je voulais vous dire une chose, que j'ai plus rien à vous dire, Maud vous appartient. On ne l'avait pas encore tourné, hein. On avait tourné que ça. C'est pas un beau cadeau, ça? C'est sublime, non?
Oui, c'est sublime.
Ouais. Mmh. J'ai rien à vous dire, Maud vous appartient. Pas beaucoup de metteurs en scène qui disent ça, hein. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et puis tu continues, voilà, c'est ça. On essaye.
Ouais.
Je suis une fille de corsaire. On m'appelle la flibustière. J'aime le vent, j'aime la houle. Je fends la mer comme la foule, la foule, la foule.
D'abord, me lever tôt. Je n'avais jamais abordé l'aube qu'à revers, au sortir de mes nuits blanches. Il s'agissait maintenant pour moi de lire le matin dans le vrai sens, et de l'associer à l'exemple de la quasi-totalité des êtres sur Terre, à l'idée de l'éveil et du commencement. Sensation vivifiante et oppressante tout à la fois.
Alors Jacques Irénal, on va commencer peut-être du début, enfin si vous voulez commencer du début, c'est-à-dire peut-être de votre rencontre avec Éric Rohmer.
Mm-hmm. Ça c'était 62, donc moi j'étais toute jeune, j'avais 20 ans et j'étais assistante monteuse et un jour Barbet Schroeder est venu et en fait Barbet qui adorait Rohmer lui avait trouvé de la pellicule pour tourner quelques films. Sans production, sans argent, rien du tout, en 16 mm. Et ces deux films, l'un s'appelait La boulangère de Monceau, et l'autre était La carrière de Suzanne. Voilà. Et donc il m'a dit, voilà, je voudrais monter avec vous, il faut faire surtout la sonorisation, parce que les films sont plus ou moins montés, puisqu'avec Rohmer, il n'y a qu'une prise. Il est très à l'économie et donc tous les sons de la carrière de Suzanne et la boulangère de Monceau sont post-synchronisés. C'est pas on prenait chaque morceau du film et puis quand il manquait une porte qui s'ouvre, qui se ferme, il fallait la enregistrer, la mettre sur une bande magnétique et la synchroniser avec ce qui se passait à l'image. Par exemple, très souvent, c'est moi qui ai fait la voix de la boulangère, parce que j'étais jeune. On a tout bricolé, et ça, c'était une période formidable. La collectionneuse, je suis d'ailleurs très très fière, a été entièrement post-synchronisée. C'est très léger, mais il y a des sons qui viennent, qu'on n'attend pas, c'est une ambiance qu'on a recréée, c'est si vous voulez, il y avait des espèces de couches comme ça, de sons, des chiens au loin ou alors des, et les ingénieurs du son au mixage disaient toujours, ah mais ça passera pas, il dit, ah mais j'adore les sons qui passent pas, et en fait il avait tort, ça passait très bien. Et pour tourner la scène de Daniel et Patrick sous le chêne, là, il avait été un an avant enregistré des sons, des insectes, il y a des mouches, il y a des oiseaux. Comme il a tourné en juillet, après, nous, quand on a fait le montage sonore, alors c'était marrant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sonothèques. Alors il téléphonait et souvent il avait des médecins qui étaient des collectionneurs d'oiseaux. Alors ils disaient, ah non, mais c'est pas l'oiseau qui est de juillet, non, non, c'est l'oiseau qui est fin juin, vous savez, ah non, je veux cette mouche, mais cette mouche qui est... Donc il y avait une espèce de contexte vérité avec justement l'ambiance sonore qui a été reconstruite, mais vraiment de A à Z, d'une façon parfaite, quoi.
Il y a des tas de bruit.
Oui, mais le silence, ça peut pas exister dans la nature. Sauf peut-être en haute montagne. T'es déjà allé en haute montagne?
Non, jamais. Mais ici aussi, ça existe.
La nuit, peut-être.
Oh non, la nuit, il y a plein de bruit. Les chats qui font la fête, les hiboux, non. Non, c'est pas la nuit que je pense. Tu connais l'heure bleue ?
Je peux distinguer d'ailleurs dans mes films deux sortes de films, les films de plaine et les films de montagne. Alors, Le Genou de Claire est un film de montagne et c'est un film, pour reprendre le mot d'un architecte sur lequel j'ai fait un film, c'est un film de la fonction oblique. C'est oblique. Et ça se passe dans un plan, tout se passe dans un plan vertical, il y a peu de choses qui sont en profondeur. Il y a peu de champ contre champ, c'est-à-dire il y a peu cet échange de champ contre champ, c'est un échange qui va en profondeur. Bon. Autrement dit, il y a peu de quatrième côté. Et on a une caméra qui est placée de face par rapport au personnage. Alors, dans les films suivants, c'est-à-dire les premiers, enfin, je ne parle pas de Perceval ni de la Marquise d'Eau, enfin, c'est un peu plus complexe. Prenons les premières comédies et proverbes. La femme de l'aviateur est en partie un film de montagne, car ça se passe au but de Chaumont, et j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup joué sur le côté vertical des buts. Et d'autre part, dans la chambre, le personnage est debout, et le personnage masculin est debout, et Marie Rivière est dans son lit. Par conséquent, il y a un échange oblique entre le lit et le personnage qui est debout, appuyé contre une commode. Dans Le Beau Mariage, j'ai Le Beau Mariage, je peux vous en parler à ce propos. Ouais. Vous avez d'abord, c'est tourné au Mans, et au Mans, il y a une pente. Alors, vous voyez ici, les deux personnages, on doit le voir ici sur le magnétoscope, les deux personnages achèvent de parler, ils sont devant un porche, puis ils vont, elles vont gravir une pente. J'accélère un tout petit peu. Bon, alors voilà, elles gravissent une pente. Et alors à ce moment-là, j'avais hésité, je m'étais dit, est-ce qu'on fait un travelling? Mais c'est très difficile pratiquement, si on peut mettre des rails, ça aurait été compliqué. J'ai préféré faire un plan fixe avec quelques panoramiques. C'est un choix. Il n'y a pas, contrairement au Genou de Claire, il n'y a pas de travelling dans ce film.
En fait, il est prof.
Bon. Alors maintenant, nous arrivons au sommet de la côte. Et ça va être une esthétique, si je puis dire, de plaine. Vous allez voir que les personnages vont bouger au contraire en profondeur et non pas, mais latéralement.
Non, il est marié.
Bon. Oui. Alors ils vont dans ce sens-là. Vous voyez, elle va toujours de gauche à droite de l'écran. Et elle décrit.
Je suis sûre que tu penses à quelqu'un.
Par terre, une espèce de triangle, alors que vous avez fait remarquer dans Genou de Claire, il y avait plutôt une sorte de pyramide. Oui, ici elle va à l'avant et en arrière en profondeur.
J'ai rapporté des bouquins de
Paris. Et, en somme, le découpage, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est peut-être la leçon de lumière. Dans les films de lumière, l'image est fixe. Mais comme faisait remarquer Langlois dans un entretien que j'ai eu avec lui, il y a différentes grosseurs de plans. Mais les grosseurs de plans ne sont pas données parce que la caméra change de position. Elles sont données parce que les acteurs, eux, changent de position par rapport à la caméra. Vous voyez, les deux personnages se mettent en plan rapproché alors qu'ils étaient en plan éloigné.
Quel que soit le film d'Éric Rohmer qu'on peut retrouver à la télé, un jour on allume la télé, on voit une image, toc, on situe tout de suite un film d'Éric Rohmer.
Diane Baratier, chef opératrice.
L'image d'Éric Rohmer est extrêmement élégante, elle est simple, elle est surtout faite de telle manière qu'il n'y a aucun filtre entre le spectateur et le texte et les acteurs, et qu'elle n'apparaisse pas. Elle doit être élégante et elle doit être fluide. Alors, évidemment, ça permet de retrouver une certaine qualité pour montrer l'espace. Pour ça, il avait beaucoup travaillé... Mais comme critique, il avait beaucoup réfléchi. Mais bizarrement, il apprécie des cinéastes qui utilisent la syntaxe grammaticale cinématographique, comme par exemple des contre-plongées, des plongées, enfin des choses assez appuyées et aussi dans la lumière. Alors que lui, il faut toujours qu'on soit absolument absent de toute syntaxe grammaticale. C'est par exemple déjà, moi je ne vais pas utiliser de filtre sur la caméra. Il n'aime pas les filtres. Il n'aime pas tout ce qui va caractériser l'image et dire que c'est du cinéma. Il faut qu'on ait le sentiment d'être bercé, d'être dans le monde réel dans lequel il nous plonge.
Et alors sur L'Anglaise et le Duc, pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose de différent?
Déjà, la contrainte, qu'on avait décidé que le tableau serait la référence et que malgré toute la technologie
de l'époque, on n'irait pas chercher des distorsions pour corriger un contraste ou quoi que ce soit, qu'on le faisait à la prise de vue et que le tableau était notre référence. Ensuite, lui avait décidé, puisqu'on était en studio, qu'il y avait un est, un nord, que la maison était placée de telle et telle manière. Il s'était renseigné sur quel temps il faisait réellement à cette année-là, enfin à cette époque-là, en 1792, s'il faisait beau ou mauvais, et quelle heure il était. Donc dans le plateau, je recréais la lumière qui correspondait à la réalité de l'époque. Comme ça, ça permettait d'être porteur pour l'imagination, mais dans une réalité qui est toujours la même. C'est pour ça que ça ne donne pas l'impression d'être un film fait par quelqu'un d'autre que par Eric Rohmer, parce qu'il s'est vraiment bien gardé de lâcher quoi que ce soit. Et d'ailleurs, la contrainte primordiale de ce film, c'était de n'avoir personne qui prenne la main sur les effets spéciaux, que ce soit lui qui reste le maître d'œuvre du début jusqu'à la fin de son film.
Presque toute la journée, je suis seule. Mon mari est au champ et mon fils à l'école. Mon domaine, c'est la maison et la cour.
En tout cas, moi, il me semble que le cinéma de Rohmer se construit plutôt contre la parole. Hein. Ce qu'il nous montre, c'est que l'être déborde infiniment la parole. C'est que la parole est une catégorie finalement pauvre et impuissante à contenir nos affects, nos passions, notre corps, nos instincts, nos désirs. Et c'est plutôt finalement une sorte de cadre vide qui ne cesse d'être débordé par l'être, hein, sous toutes ses formes. De ce point de vue-là, il faut rappeler que le cinéma de Rohmer se construit contre la parole et contre toutes les formes finalement d'approche de la réalité abîmées par l'usage, hein. C'est-à-dire les autres arts, hein, la littérature, le théâtre, qui sont évidemment qui utilisent la parole au premier chef, mais aussi bien la peinture, la musique, etc., qui se rapprochent plus ou moins du cinéma. Mais enfin, le nœud de son œuvre de cinéaste, c'est quand même le celluloïd et le marbre. À ce texte qu'il écrit donc en 1955, où il va passer en revue la peinture, la musique, la littérature, etc., la poésie, pour montrer qu'elles ne sont plus à même d'exprimer l'être dans toute sa plénitude, que d'une certaine manière elles sont coupables d'avoir perdu la foi, d'avoir perdu la coïncidence avec l'être, parce qu'elles sont réfugiées dans une certaine cérébralité, dans une certaine abstraction, et que seul le cinéma peut relever ce défi au XXe siècle et nous donner accès à la totalité de l'être. Donc il y a on peut y voir évidemment un propos réactionnaire ou conservateur, mais en même temps il y a une formidable foi dans la puissance du cinéma, et moi je pense même que c'est la seule foi qui ait jamais traversé Rohmer. On peut évidemment dire que Rohmer est catholique, etc., bien sûr qu'il l'est, mais son catholicisme il passe par le cinéma. Je pense que le catholicisme de Rohmer n'aurait aucun intérêt s'il n'avait pas été cinéaste.
Je doute profondément que l'histoire ait un sens. Pourtant je parie pour le sens de l'histoire. Je me trouve dans la situation pascalienne. Hypothèse A, la vie sociale et toute action politique est totalement dépourvue de sens. Hypothèse B, l'histoire a un sens. Je ne suis absolument pas sûr que l'hypothèse B ait plus de chances d'être vraie que l'hypothèse A. Je vais même dire qu'elle en a moins. Admettons que l'hypothèse B n'a que 10% de chances et l'hypothèse A 90%. Néanmoins, je ne peux pas ne pas parier pour l'hypothèse B. Parce qu'elle est la seule, celle qui veut dire que l'histoire a un sens, parce qu'elle est la seule qui me permette de vivre. Admettons que j'ai parié pour l'hypothèse A et que l'hypothèse B se vérifie, malgré ses 10% de chance seulement. Alors j'ai absolument perdu ma vie. Donc je dois choisir l'hypothèse B parce qu'elle est la seule qui justifie ma vie et mon action.
Un jour, je lui ai montré le dernier film de Bergman. C'était Sarah Band. Il l'a regardé. Il m'a dit « Je suis d'accord avec vous, ce film est magnifique. Mais ce que je ne comprends pas, c'est Bergman, il est plus vieux que moi. Comment arrive-t-il au bout de la vie, avec cette noirceur totale, justement, ce n'est pas un grand cinéaste ?» Parce que, et ça c'était Mozart pour lui, Mozart ça va vers la lumière. Le créateur, il va pas, le noir ne lui sert qu'à monter de la lumière. Et pour lui, un grand cinéaste, c'est forcément quelqu'un qui montre le monde, mais pas dans ce qui l'emmène vers la chute. C'est pas vers le bas, c'est de monter. Et quand on voit le dernier film de Rohmer, c'est quand même le film de la grâce absolue, c'est l'aube du cinéma.
Tu veux pas? Et dis-moi oui.
Non, mais attends.
Ça me ferait plaisir, tu le sais.
Oh, on va attendre un petit peu.
quoi?
On va attendre un tout petit peu, je te demande de la patience.
Donc tu vas attendre quoi?
Tu sais ce que c'est le rayon vert?
Non, c'est quoi?
C'est le dernier rayon du soleil couchant.
J'imagine que je suis possesseur d'un petit appareil qu'on suspend à son cou et qui émet un fluide magnétique capable d'annihiler toute volonté étrangère. Je rêve que j'exerce son pouvoir sur les femmes qui passent devant la terrasse du café.
Pardon, madame. Êtes-vous très pressée?
Franchement, monsieur, non, pas très.
Puis-je vous demander si vous avez une heure à perdre?
À la vérité, oui.
Vous serait-il agréable de la perdre avec moi?
À vrai dire, je n'en sais rien.
Faisons-en l'expérience, comme ça vous saurez.
C'est vrai, je le saurai. Excellente idée.
Je l'ai rencontré parce qu'il cherchait une blonde aux yeux bleus, bien fendus, comme l'a décrit Chrétien de Troyes, et sachant chanter.
Ariel Dombal.
Ce qu'il détestait, c'était l'acteur théâtral, car pour lui, c'est les cours de théâtre et les cours, soi-disant, de cinéma ou l'expérience cinématographique qui rendait les gens mauvais. Et moi, il me pensait comme une éternelle débutante aussi. Enfin, à ses yeux, j'étais ça. Mais j'ai vu Eric juste avant sa mort. Et alors, je suis allée à 10h du soir. Alors, on ne m'a pas laissée entrer. Je suis passée sous la barrière. Il neigeait et tout.
Ah, il neige.
J'allais d'un pavillon à l'autre. C'était horrible, horrible.
C'est bête,
horrible.
La neige, ça fait des gosses.
Je sonne, urgence et tout. Puis, il y a un homme avec un petit cartable qui ouvre l'interne. Et je lui dis, oh, écoutez, voilà, mon metteur en scène m'a appelé. Je suis l'actrice. Il me dit, mais je vous connais. Vous savez qu'on n'a pas le droit de rendre une visite à 11h du soir. Je dis, oui, mais là, c'est spécial et tout ça. Il m'a dit, bon, allez, entrez, mais 2 minutes. Hein. Et puis, je suis entrée dans cette salle. Et puis, il a sursauté comme ça. Je lui dis, mais Eric, je suis venue, j'ai pas le droit et tout. Mais je voulais te dire. Alors, il m'a fait un signe comme ça. Et puis, il ne pouvait plus parler. Et puis, il y avait un grand cahier. Où il écrivait. Et alors, je lui dis, mais tu sais que tu vas bientôt sortir. Parce que je le vois, tu as des forces. Et je t'aime beaucoup. Et de sa grande écriture, il m'a écrit merci. Voilà, c'est les derniers mots. C'était tellement beau. Et j'étais contente de faire ça. Et ça s'est passé comme dans un film d'Eric, avec une espèce de simplicité et de grandeur. Voilà, telle qu'est la vie. Voilà, j'ai bien fait d'aller le voir. Il a tellement compté, il m'a révélé, il m'a révélé à moi-même. C'est la première personne qui m'ait regardée. Voilà, donc pour une actrice, tout à coup, c'est extraordinaire. Et il m'a tellement appris. Mais je dirais que j'ai été une de ces petites muses et que c'était toujours des filles et c'était vraiment à l'ombre des jeunes filles en fleurs.
Je vais te raconter une histoire. C'est un conte de fées? Non. Encore que si quelqu'un a eu l'anneau de...
Gigès.
Il aurait pu élucider le mystère.
Alors c'est policier?
Si on veut, appelons-le le mystère du collier.
Bon, on peut parler en effet d'un devenir féminin chez Romère, qui est assez frappant, puisque je dirais que dans un premier temps, ce qui l'emporte, c'est le regard, cette espèce de puissance prédatrice du regard et de la parole qui vont ensemble. Hein. C'est évidemment Brialy dans Les Genoux de Claire, c'est, même s'il est déjà un peu féminisé à travers Aurora Cornu, il y a déjà un dédoublement intéressant. Et oui. Puis, il va basculer dans un devenir féminin à partir des années 80.
Alors, quel film est-ce que vous pourriez...
Alors, je dirais... Déjà un peu La Femme de l'Aviateur, quand même. Ça commence avec les Comédies des Proverbes. Et puis ça va évidemment s'épanouir avec Le Rayon Vert, Les Nuits de la Pleine Lune. Il dit à ce moment-là, il a des déclarations à la Flaubert où il dit « Le cœur féminin, je le sens en moi ». Et évidemment, ça va aller très loin, puisque ça va aller jusqu'à « Je me projette dans un garçon qui s'habille en fille, dans l'Astrée ». Et qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que d'être une femme au milieu des femmes, de n'être plus perçue comme un homme, de n'être plus perçue comme un regard agressif, mais finalement d'être femme parmi les femmes. Donc c'est le fantasme ultime. Bon, d'ailleurs, ça revient à la case départ, puisque René Scherrer nous a raconté que dans le grenier de Tulle, quand il montait des pièces latines ou la farce de Maître Patelin ou ce genre de choses avec ses petites cousines de Tulle, et ben lui-même se travestissait.
Ça, cette petite fleur, qu'est-ce que c'est ? Muflier sauvage.
Ah, c'est joli.
Oui.
Comment tu dis que ça s'appelle ?
Muflier sauvage.
Comme s'il y avait une espèce de microscopique petite herbe sur le chemin, et puis il l'a arrosé. Et voilà. Ou comme, pour prendre une image de Proust, c'est vraiment les fameux petits papiers chinois qu'on met dans l'eau, et qu'il y a toute une arborescence. Et il a fait ça avec toutes les créatures auxquelles il s'est intéressé. Il les a fait croître comme ça, dans un verre. Je pense à lui tout le temps et je l'aime de ce qu'il nous a apporté, à nous toutes, ces petites créatures.
Quand je lis les histoires d'autrefois, je vois que les enfants allaient jouer dans les prés, qu'on pouvait cueillir des fleurs, chasser les papillons et les coccinelles. Maintenant, tout est clôturé avec des barbelés. Et puis, de toute façon, si on réussit à entrer, il y a des chiens qui vous courent après. Alors pourquoi les gens qui ont des enfants iraient à la campagne s'il n'y a plus de prés, ni de champs, ni de bois, il n'y a plus rien?
Ces allées, ces taillis favorisaient le jeu de cache-cache mieux encore que le bois du château de Fleurville. Ils n'offraient pas le même danger que celui de l'arbre creux où faillite étouffée se fit. Dans mes films, au contraire de ceux de certains de mes confrères, n'a de place aucun souvenir d'enfance. Mais je me demande si la structure circulaire de cette allée et des bosquets qui l'abordaient extérieurement n'est pas à l'origine d'un motif constamment présent dans mes films, celui d'un parcours plus ou moins dissimulé que l'on peut arpenter autour d'un point central.
Je te demande d'être indulgente, hein. J'ai à peine de commencer à l'étudier.
Éric Rohmer, une émission d'Hélène Frappin et Angélique Thibault. Avec les historiens et critiques de cinéma Antoine Debecq, Noël Herpe et Jean Douchet, les actrices Françoise Fabian et Ariel Dombal, la productrice Françoise Etchegaray, la monteuse Jackie Reynal, la chef opératrice Diane Baratier. La voix d'Éric Rohmer est extraite de Preuve à l'appui d'André S. Labarthe. Mixage Julie Garraud. Pour Brigitte Thibault.
Écouter ou podcaster cette émission sur le site de France Culture, un site enrichi par Pascaline Bonnet. Je vous retrouve samedi prochain à 16h pour un autre rendez-vous avec l'année 1969. En attendant, à 17h, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.